C'est made in USA, mais ça ne garantit rien, et qui malheureusement est exporté à grande échelle mondiale. L'évangile de la prospérité marche avec deux idées. La première idée, c'est de vous dire que Dieu veut que vous soyez riche, en bonne santé, réussite. Il veut vous libérer de la pauvreté, de la misère, de vos problèmes. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est pour être ainsi béni de Dieu, il faut beaucoup donner. Il faut être très généreux, avec le principe que si on donne un peu à Dieu, il nous le rend multiplié. Donc, il faut beaucoup semer pour beaucoup moissonner. Ils exploitent cette idée. Donc, dans ce message, il y a des appels constants à donner de l'argent. Voici un appel typique de Joyce Meyer dans ses conférences. N'ayez jamais peur de donner trop au nom de Dieu, la peur est l'œuvre du diable. N'ayez pas peur de donner au nom de Dieu, parce que la peur, c'est l'œuvre du diable. Et bien sûr, quand la corbeille passe, ce n'est pas Dieu qui récupère cet argent, c'est le prédicateur, c'est ceux qui organisent ces choses. Cela fait que ces prédicateurs de la prospérité peuvent dire, regardez-moi, je suis riche, donc forcément je suis béni par Dieu, et parce que moi j'ai cru dans ma vie, parce que moi j'ai été généreux, me voici riche, donc vous le serez à votre tour si vous donnez, si vous donnez sous-entendu à mon ministère. Et donc c'est ainsi que s'enrichissent. Donc vous voyez que le tout est bien ficelé et fonctionne comme ces ventes pyramidales qui escroquent des gens, où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Et cet enseignement est encore plus pernicieux dans les pays pauvres, les pays du Sud. On peut comprendre leur point de vue de regarder l'Occident et sa richesse, ainsi que son héritage chrétien, et de penser que les deux marchent ensemble. Pour comprendre cette réflexion, l'Occident est riche, l'Occident est chrétien, plus ou moins. Alors, si je crois en Christ, je serai riche. Et l'évangile de la prospérité exploite cette idée pour faire des ravages un peu partout. Mais c'est une hérésie. Et le propre d'une hérésie, c'est de se baser en partie sur une vérité, ou de prendre un verset, prendre un thème de la Bible et de le présenter de manière déséquilibrée. Par exemple, à l'époque des apôtres, il y avait des gens qui circulaient dans les églises et qui disaient « Jésus est un homme ». Jésus est un homme. Alors, la chose, ce qu'ils oubliaient de dire, ce qu'ils niaient, c'est que Jésus soit Dieu. Parce que nous croyons que Jésus est Dieu aussi. Il est un homme. Ce n'est pas faux de dire « Jésus est un homme », mais c'est faux si on ne dit pas à côté « Jésus est Dieu ». Il y avait d'autres gens qui circulaient et disaient « Jésus est Dieu ». Mais il niait qu'il soit pleinement homme. Et ça aussi, c'est une hérésie. Donc, une hérésie, c'est mal présenter une vérité ou ne présenter qu'une partie de la vérité. C'est ainsi que Satan aime fonctionner. De la même manière, si on dit « Dieu veut que vous soyez prospère », en soi, oui. Ou bien « Dieu veut que vous soyez généreux », ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'on entend par prospère? Comment est-ce présenté? Dans quel contexte? C'est pour ça que nous regardons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 va nous aider à mieux comprendre. Tout d'abord, pourquoi Romains chapitre 8? Ben déjà, c'est un des sommets de la Bible, c'est un grand chapitre de la Bible. Romains 8 n'est pas un chapitre mineur, obscur, pris dans un contexte qui n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Contrairement un peu à ce mouvement, l'évangile de la prospérité, tout ce mouvement s'était grandement basé sur, par exemple, la prière de Jabez. Peut-être vous ne connaissez même pas, mais la prière de Jabez, c'est un petit prière qu'on trouve dans 1 Chronique chapitre 2, faisant partie d'une généalogie dans les chroniques. Et ils ont, à partir de quelques versets, ils ont dit, ça c'est la définition sine qua non de la vie chrétienne. Nous ne croyons pas qu'il soit sage d'interpréter la Bible ainsi. Par contre, Romains chapitre 8, on ne peut pas se tromper, c'est un chapitre au cœur de ces grandes épîtres, avec des vérités qui s'appliquent vraiment à notre vie. Et surtout, Romains chapitre 8 cherche à répondre à une question que, finalement, on s'est tous posée. C'est cette question, d'accord, si Dieu m'aime, si je suis son enfant, si je suis justifié, si je suis accepté dans sa famille, Alors pourquoi il y a des choses dans ma vie qui semblent indiquer que Dieu ne m'aime pas? Des épreuves, des souffrances, des difficultés. Et Paul écrit ce chapitre 8 notamment pour répondre à ces questions. Donc ce matin, je vous invite à faire la lecture juste de quelques versets. Ce sera la suite du message prêché par le pasteur Vincent la semaine dernière. Nous reprenons en verset 24, Romains 8, versets 24 à 28. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans ce verset, nous allons voir plusieurs aspects de la vie chrétienne qui sont absents dans le discours de l'évangile de la prospérité. Notamment, nous découvrons ici que dans la vie chrétienne, il y a un élément d'espérance, ensuite il y a un élément de faiblesse, et enfin il y a un élément d'inconnu. L'espérance, la faiblesse et l'inconnu réservés aux chrétiens. Et toutes ces choses sont étrangement absentes dans le message de l'évangile de la prospérité. Mais ils sont très présents dans la pensée de l'apôtre Paul et du Nouveau Testament. Parlons tout d'abord de l'espérance. Versets 24 et 25. Paul dit « C'est en espérance que nous sommes sauvés ». Il parle de l'espérance, c'est-à-dire des choses que nous ne voyons pas. Une des grandes vertus chrétiennes, c'est justement l'espérance. Et l'espérance concerne des choses que nous n'avons pas, que nous ne voyons pas, que nous attendons. Déjà à l'époque, l'idée de l'espérance était méprisée par la pensée grecque. Parce que dans la pensée grecque, avec cette idée de l'espérance, elle y voyait un déni du présent. Et ça peut être effectivement un problème. Les Grecs disaient « c'est dommage de vivre toute sa vie » dans des faux espoirs, des espoirs futurs qui, on ne sait pas s'ils vont se réaliser. Et si on vit toute sa vie avec ces espoirs futurs, on rate la richesse du présent. C'est la carotte devant le cheval. C'est dommage de vivre comme ça. Et donc, pour résumer un peu la philosophie grecque de l'époque, notamment les stoïciens, tout ça, il y avait cette phrase, vous connaissez, « Carpe diem », c'est « saisir le moment, profite du jour ». On ne va pas miser tout sur l'avenir qu'on ne connaît pas. C'est l'espérance, ça ne nous intéresse pas. Mais Paul introduit une nouveauté avec le christianisme, introduit une nouveauté de l'espérance, la réalité de l'espérance. Et c'est ce qu'il dit en verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est-à-dire notre salut est une affaire aussi d'espérance. Mais Paul, il a déjà montré dans cet épître qu'à la différence de la pensée grecque, ses faux espoirs, l'espérance chrétienne, il va dire en chapitre 5, l'espérance chrétienne ne trompe pas. Pourquoi l'espérance chrétienne ne trompe pas, et que ce n'est pas juste la carotte devant le cheval, c'est qu'il y a la résurrection de Jésus-Christ qui change la donne, qui change tout. La résurrection de Jésus-Christ fait que l'espérance est certaine, l'espérance ne trompe pas. Puisque Jésus est ressuscité des morts, il peut dire dans chapitre 8 des versets que nous avons vus la semaine dernière, il peut dire que Jésus a été ressuscité, il a eu son corps nouveau, alors nous aussi, c'est sûr et certain que nous l'aurons, le nôtre, mais nous attendons. C'est une espérance certaine, mais nous l'attendons, c'est futur. Or, dans l'évangile de la prospérité, toutes les promesses, toutes les bénédictions de Dieu doivent se matérialiser dans le présent. On veut les voir maintenant. Et c'est tout le contraire de ce que Paul dit. Il dit, nous espérons, c'est-à-dire nous ne voyons pas. Si nous ne voyons, c'est qu'on ne les espère pas. Mais le salut, c'est une affaire d'espérance. À cause de la corruption qui frappe notre monde depuis Adam, dont il parle dans les versets 20 à 23, il y a de nombreux problèmes dans ce monde et dans votre vie dont la seule solution se trouve dans le retour de Christ. Ça, c'est une pensée importante. Il y a de nombreux problèmes dans ce monde et peut-être dans votre vie, dont la seule solution se trouve dans le retour de Jésus-Christ. Dans ce jour dont il parle, où enfin on va restaurer toutes choses, enfin on connaîtrait cette liberté de la corruption. Un jour, c'est vrai, ce sera le paradis sur terre, mais pas encore. Et Paul dit, jusqu'à ce jour, en attendant ce jour, nous gémissons, nous soupirons, nous souffrons. En attendant l'adoption, vous voyez le verset 23 juste avant notre texte, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En attendant l'adoption. Ça, c'est une phrase qui mérite de réflexion. Nous attendons l'adoption. Et il me semble, par cette phrase, Paul nous invite à une pensée mature, équilibrée. Ce que les hérésies n'aiment pas, c'est réfléchir, trouver un équilibre dans les versets de la Bible. Mais Paul nous invite, nous oblige à avoir une réflexion mature, notamment par rapport à l'adoption. Cette phrase est intéressante. En attendant l'adoption, juste avant et dans tout le Nouveau Testament, nous savons que le salut, c'est être adopté dans la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons reçu l'adoption, nous avons reçu un esprit d'adoption, il dit juste dans les versets précédents. Donc, nous sommes enfants de Dieu, et ça c'est la vérité. Et puis il dit ici, en attendant l'adoption. Alors comment est-ce que nous allons comprendre ça? Que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, nous sommes des enfants adoptés, et puis nous attendons l'adoption. Mais ça, c'est comme ça qu'on interprète la Bible, notre salut. Il y a des versets comme ça qui nous obligent à dire oui, nous l'avons, et puis nous l'attendons. Nous l'avons déjà, mais ce n'est pas encore. Nous avons déjà la vie éternelle, nous attendons la vie éternelle. Nous sommes sauvés, nous serons sauvés. Vous allez trouver ce genre de phrase dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est pourquoi c'est une erreur de trop simplifier et de dire... Voilà, ça y est, nous sommes les hérités, nous sommes les enfants adoptés, donc Dieu nous doit tout maintenant. Avec Rebecca, on était jeunes mariés, et on était en vacances ou en déplacement. Un week-end, on se retrouvait dans un coin qu'on ne connaissait pas, alors c'était le dimanche, on a cherché une église, donc on ne connaissait pas, donc on a regardé dans l'annuaire et on est tombé sur une église comme ça. Certainement une église peut-être qui était travaillé ou troublé par certaines de ses pensées. Mais à un moment, dans un chant qu'on a chanté, que c'était facile à apprendre, et puis on l'a facilement retenu, même aujourd'hui, on pourrait le rechanter, mais le refrain de ce chant disait « Mon père est riche en maison et terre, et je suis donc un millionnaire. Mon père est riche en maison et terre, je suis un millionnaire. » Alors, je peux comprendre, effectivement, un enfant du roi, il est riche. La Bible dit, nous sommes riches, nous venons de chanter. Maintenant, le pauvre peut dire, il est riche. Les richesses célestes, effectivement, dépassent peut-être les millions. Mais ce qui nous troublait un peu avec ce chant, c'est que non seulement c'était peut-être un peu simpliste de dire « Mon père céleste, il est riche, donc ça fait de moi un millionnaire », mais surtout, on le chantait au moment des offrandes, et puis il fallait répéter le refrain maintes et maintes et maintes reprises, et chaque fois on repassait le corbeil « Je suis un millionnaire ». Et c'était maladroit ou bien c'était erroné. Parce que, voilà, le verset dit, nous espérons, nous attendons l'adoption. Nous sommes héritiers de Dieu, effectivement, mais nous ne touchons pas encore notre plein héritage. Ou encore, parfois, on évoque le cas des patriarches dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'ils ont été matériellement bénis de Dieu. Abraham, Isaac et Jacob étaient riches, standard terrestre en tout cas. Et on dit, voilà, à cause de leur foi, ils ont été bénis, donc on peut, nous, s'attendre à la même chose. Mais, revoyons cette pensée quand même, parce que si vous regardez bien les promesses que Dieu a fait à Abraham, qu'est-ce que Dieu a promis, a donné à Abraham? Dieu lui a promis un pays promis, c'est vrai, un merveilleux pays promis. Il lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Il lui a promis qu'il allait être une bénédiction pour le monde entier. Mais regardez la vie d'Abraham. quand est-ce qu'il a eu son pays promis? Qu'est-ce qu'il a eu comme pays promis? Montrez-moi sa maison luxueuse dans un lotissement fermé en terre promise. Vous savez ce que Abraham avait comme pays promis à la fin de sa vie? Demandez au notaire ce que appartenait à Abraham à la fin de sa vie. Il avait un petit terrain avec un caveau. Ça, c'était sa terre promise, son pays promis, un caveau. Ou bien sa descendance nombreuse comme les étoiles. Quand il avait 100 ans, il avait 2 enfants. Alors même en France, 2 enfants, c'est pas encore famille nombreuse. Et c'est pas aussi nombreuse que les étoiles. Alors, est-ce que Abraham était héritier? Est-ce qu'il a reçu tout ce que Dieu lui a promis? Non, Abraham n'a jamais vu ici-bas les choses promises. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire à Abraham? T'as pas eu assez de foi. T'as pas donné assez à Dieu, t'as pas donné assez d'offrandes. Vous pensez à ce qu'il a donné à Dieu, à son fils. T'as pas obéi, t'as pas servi assez. Non, ce qu'on va dire à Abraham, c'est que oui, Dieu a fait ses promesses, mais il avait des choses meilleures en vue pour toi. Il n'avait pas en tête juste des bénédictions ici-bas, mais des choses célestes. C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit. Dieu avait en vue des choses meilleures et Abraham avait en chose meilleure qu'il espérait toute sa vie. C'est une vie d'espérance. Joel Osteen, c'est un des grands pasteurs de ce mouvement. Il a écrit un livre vendu à 4 millions d'exemplaires, traduit en français, qui s'intitule « Votre meilleure vie maintenant ». Votre meilleure vie maintenant, dont Top Chrétien fait la pub. Donc vous pouvez avoir votre meilleure vie maintenant. C'est ce qu'on propose, si vous êtes chrétien, vous pouvez avoir votre meilleure vie maintenant. Mais je vous dis, c'est tout le contraire. Si vous êtes chrétien, votre meilleure vie n'est pas maintenant. Si vous n'êtes pas chrétien, effectivement, le mieux que vous pouvez espérer, c'est maintenant, parce qu'après, ça s'aggrave. Mais si vous êtes chrétien, votre meilleure vie, c'est sûr, c'est pas maintenant. Imaginez offrir ce livre à l'apôtre Paul dans sa prison. Votre meilleure vie maintenant, bon, tu l'as un peu raté, Paul, mais imaginez offrir ce livre à Jésus en croix. Non, c'est l'espérance, nous sommes sauvés en espérance. Et j'aimerais dire là que l'espérance chrétienne vraiment n'est pas une échappatoire. Il y a une beauté dans l'espérance, une beauté qui me semble méprisée par cet évangile de la prospérité. Il y a une beauté dans l'espérance, il y a quelque chose de noble dans l'espérance. Je prends juste l'exemple d'une femme qui attend le retour de son mari, qui est parti à la guerre, et qui attend, qui espère, qui peut-être reçoit des nouvelles qu'il est encore vivant, et qui persévère dans l'attente, qui reste fidèle. Ça, c'est beau, c'est noble, c'est cette espérance-là. On veut la récompenser. Et tel est notre cas ici-bas. Nous espérons, nous attendons, nous avons des nouvelles que ça va être sûr. C'est précieux ceux qui espèrent, ceux qui attendent. Et puis cette capacité d'espérer, je peux même dire qu'il y a un côté rentable, ça ne doit pas être la motivation première, mais je lisais un livre encore cette semaine sur le capitalisme, sur l'argent, des réflexions intéressantes, mais dans le livre il disait qu'un des éléments les plus basiques pour faire prospérer une économie, une société, c'est la capacité à résister à la gratification immédiate et apprendre à investir pour des retours à long terme. Ça, c'est la base d'une économie sage, c'est qu'au lieu de rechercher la gratification immédiate, on est prêt à prendre son argent ou son temps et investir, donc on se prive d'une gratification immédiate, mais en vue d'un retour plus important. C'est vrai, c'est un sage principe. Mais la Bible fonctionne comme ça, en disant la gratification immédiate, c'est pas maintenant, c'est dans la présence de Dieu, c'est au ciel. Mais l'évangile de la prospérité dit, voilà, la gratification, il faut l'avoir maintenant, il faut le demander maintenant, c'est aujourd'hui. Et peut-être, c'est une des raisons que, effectivement, l'Occident, les pays avec un héritage chrétien, marqués par cette idée d'espérance, ont pu refuser en certaine mesure une gratification immédiate, pour, c'est un principe qu'on trouve dans la Bible, et notre vie est une vie d'espérance. Voilà, donc l'évangile de la prospérité me semble occulter un élément d'espérance, des choses que nous ne voyons pas. Ensuite, un élément de faiblesse. Ça, c'est le verset suivant, verset 26, juste la première partie du verset. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Je me dis que ce verset nous offre une grande consolation, simplement en nous disant que nous tous, nous sommes faibles, notre faiblesse. L'Esprit connaît cette faiblesse et nous aide. Tout chrétien est faible, c'est notre sort, et Dieu le sait, et il aime aider de tels gens. Alors, quelle est cette faiblesse dont il s'agit? Je pense que c'est tout ce qui est lié à notre humanité, notre chair, dans ce temps d'attente, en attendant notre nouveau corps, en attendant la rédemption. Nous sommes embêtés, nous vivons ici-bas, dans ce corps. Donc c'est une faiblesse parfois physique, c'est une faiblesse parfois spirituelle. On n'est pas des anges, Dieu nous a fait différemment des anges, oui, ils sont forts, ils n'ont pas besoin d'aide. Il y a un verset qui dit, il n'est pas venu pour aider des anges. Mais nous, les êtres humains, même les chrétiens, nous, notre faiblesse, on parle de notre faiblesse. Et malheureusement, l'évangile de la prospérité n'a pas de place pour des faibles. Si tu n'arrives pas, c'est que tu as péché. C'est que tu es maudit, c'est que tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez servi, tu n'as pas assez donné d'offrande. Mais dans l'accueil de Dieu, dans la famille de Dieu, il y a une place, comme disait Belfort, dans sa présidence, pour des faibles. Et là encore, la faiblesse est-elle toujours méprisable? Toujours mauvaise? C'est vrai, il y a une faiblesse liée au péché, et Dieu veut nous délivrer de cette faiblesse-là. Mais la faiblesse est-elle toujours mauvaise? Je dis non. La faiblesse peut être touchante, belle, précieuse. Un bébé, par exemple, un bébé est faible. Mais c'est mignon, c'est bien, un petit enfant. Une personne âgée, une veuve, elle est faible, mais elle n'est pas moche pour autant. Il y a une beauté dans ses cheveux blancs. Dans cette faiblesse-là. Et puis enfin, Christ sur la croix, il était faible. Mais nous chantons, nous les chrétiens, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Parce que dans cette faiblesse-là, il y a le monde méprise, c'est scandaleux, c'est méprisable pour le monde, mais nous y trouvons une beauté parce que c'est le salut pour nous. Est-ce que vous vous rappelez de ce jeu aux fêtes foraines? Je ne sais pas si les fêtes foraines ont toujours toute leur ampleur comme il y a quelques années, mais ce jeu aux fêtes foraines, c'est le jeu de l'homme fort. Il a une masse et puis il doit taper fort sur un objet pour faire sonner la cloche. Et si on sonne la cloche, on gagne le prix. Eh bien, l'évangile de la prospérité a une conception de la vie chrétienne ainsi, notamment de la prière. Il suffit de frapper suffisamment fort et on sonne la cloche céleste et Dieu, il donne le prix. Et cette force avec laquelle il faut frapper, il faut demander, eh bien, c'est parfois juste la force de volonté, la détermination à la vouloir, ou bien c'est le montant de l'offrande qu'on va mettre à la fin de la réunion. Ou bien c'est la quantité d'heures qu'on va passer dans le jeûne, dans le service. Ou bien c'est le volume et l'intensité des prières du soi-disant parler en langue. Mais Dieu, ce n'est pas une fête foraine. J'ai fait un tour cette semaine sur Top Chrétien. Un message qui est en tête, c'était un message sur la détermination. Et la prédicateur, c'était même une prédicatrice. Ça, c'est un autre message. Il disait, voilà, la clé de la vie chrétienne, c'est la détermination. Si vous êtes déterminé, vous allez pouvoir le réussir. Si vous êtes déterminé à obtenir la bénédiction de Dieu, vous pouvez l'avoir. Et puis, il dit, moi j'étais déterminé, moi j'ai fait des bons choix dans ma vie, moi j'ai remporté, donc voilà ce qu'il faut faire, la détermination. J'ai réussi parce que j'étais forte, mais c'est l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est de dire, il y a des moments où nous n'arrivons pas, et Dieu est venu pour ça, pour nous aider dans notre faiblesse. Et Christ, il a partagé notre faiblesse pour nous élever, pour nous rendre forts. Ça, c'est le message du Nouveau Testament. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Une belle pensée que nous ne voulons pas oublier dans l'Église. Et puis enfin, juste la deuxième partie du verset 26, nous trouvons dans la vie chrétienne un élément d'inconnu. J'ai mis l'inconnu pour traduire cette pensée. Verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Est-ce que ça vous est arrivé? Avouez que cela vous arrive. Parfois, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On traverse un problème, une épreuve, et puis on pense avoir une solution à proposer à Dieu, mais même là, on ne sait pas si c'est vraiment ça. Oui, bien souvent, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est-à-dire, dans ce temps où nous gémissons, nous ne savons pas toujours ce que Dieu veut faire dans nos vies, oui, par nos vies. Nous ne savons pas ce qui est toujours le mieux pour nous, pour les autres autour de nous. Ce que nous savons, par contre, verset 28 le dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais encore, un élément d'inconnu, c'est la manière que Dieu va arriver à ce bien. Parfois, même ce bien, exactement comment et quel est ce bien, ça reste un inconnu pour nous. Ce qu'on sait que c'est le bien, c'est d'arriver sain et sauf dans la présence de Dieu, l'ayant glorifié par nos vies et par notre mort. Ça, c'est le bien final. Le bien, c'est un bien éternel. Mais exactement comment Dieu, ce que Dieu va faire pour que tout concourt à ce bien, ça, nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas dans quelles circonstances cela va se produire. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander, parfois. Et là encore, c'est totalement le contraire de ce qui prêche l'évangile de prospérité. Selon l'évangile de prospérité, on sait toujours ce qu'il convient de demander. Qu'est-ce qu'il convient de demander? Eh bien, la guérison, la richesse et la réussite. Il faut toujours demander ça. C'est toujours convenable, selon eux, parce que, oui, c'est convenable d'être riche et en bonne santé. La devise de base de l'évangile de prospérité, repris par les nombreux prédicateurs, c'est, en français, ça donne « proclamer pour posséder ». En anglais, c'est « name it and claim it ».« Name it and claim it ». Tu le nommes, tu le prends. Ou bien, il suffit de le vouloir pour l'avoir. Un peu basé sur peut-être ce verset « demande ce que tu voudras et cela vous sera accordé ». Le verset 10 « demandez ». En mon nom, ce qui va changer un peu la démarche et l'attitude. Mais ils saisissent cette pensée, il suffit de le proclamer, de le dire pour le posséder, tellement Dieu veut donner et nous combler avec son abondance. Mais ici, c'est tout le contraire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, lui, il sait, lui, il intercède pour nous. Verset 26 dit, le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, une phrase curieuse, c'est quoi des soupirs inexprimables du Saint-Esprit? Dans certains milieux, ces soupirs inexprimables, c'est le charabia du parler en langue. Mais nous ne croyons pas que c'est la bonne interprétation de ce verset, tout d'abord parce qu'il s'agit de quelque chose d'inexprimable, inaudible, invisible. Ensuite, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait directement auprès de Dieu, sans passer par nous. Et puis, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait pour chaque chrétien. Et même à l'époque, le parler en langue n'était jamais réservé à chaque chrétien. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit, c'est ça qui est merveilleux, lui il le sait parce qu'il connaît parfaitement la pensée de Dieu étant Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est justement, il connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit, il connaît parfaitement la pensée de Dieu, il connaît parfaitement la volonté de Dieu pour nous, il connaît parfaitement les desseins de Dieu étant lui-même Dieu. Et donc, lui peut intercéder pour nous et avoir toujours gain de cause, avoir toujours ses requêtes exaucées. Alors là, c'est vrai, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit, les soupirs inexprimables du Saint-Esprit, c'est probablement pas fait que sa voiture ne tombe pas en panne, fait que ses enfants ne tombent jamais malades, fait qu'il gagne au loto. C'est pas les soupirs inexprimables du Saint-Esprit. Son intercession, c'est plutôt, à mon sens, ce serait plutôt dans le genre, fait qu'il tienne bon dans la vie chrétienne, fait qu'il comprenne davantage l'Évangile, fait qu'il soit assuré de ton amour pour lui dans cette épreuve, dans cette souffrance. Voilà le soupir profond, voilà le souhait profond de notre Consolateur. Il a été donné pour soi. Donc, lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit, là, lui, il intercède pour nous et il nous garde. Il intercède en faveur des saints. Donc, vous voyez, cet évangile de prospérité, elle ne vous parle pas tant de l'espérance future, ni de la faiblesse qui sera notre partage ici-bas, mais dans laquelle Christ est venu pour partager, ni de l'inconnu, de la manière, de la providence de Dieu qui est en train de tout orchestrer pour votre bien, mais cela en passant parfois par épreuves et souffrances, c'est pour ça que nous ne savons pas tout. Mais si l'évangile de prospérité n'en parle pas, Paul en parle et nous invite à avoir une pensée équilibrée par rapport à ces choses, hein, ce qui nous garde devant toute cette erreur. Verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Retenons pour terminer cette phrase, pour ceux qui aiment Dieu. Le pire dans tout ça, dans cet évangile de prospérité, c'est que justement, ce n'est pas Dieu qu'on aime, c'est les choses qu'il pourrait donner qu'on aime et qu'on voudrait. Et en cela, c'est grave. C'est Dieu qui est aimable plus que tout. Et nous avons l'occasion de notre vivant de montrer au monde que Christ est meilleur. Meilleur que l'argent, meilleur que la santé, meilleur que la guérison, meilleur que tout ça. Et c'est ça aimer Christ, c'est ça aimer Dieu, c'est d'avoir découvert que, oui, par ce qu'il a fait pour moi à la croix, il est meilleur, il est mieux que ce que ce monde ici-bas peut m'offrir, que les bénédictions terrestres. C'est pour ça que je recherche lui, sa personne, et je veux l'aimer lui avant tout. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous aide à rester dans la vérité et dans son amour.